Salut Yanis,
Bonjour.
bienvenue à toi et bienvenue à tous dans un épisode de l'Interview des Profondeurs, un épisode spécial du podcast Profondément Vivant que l'on co-hôte avec Hélène. Et donc moi c'est Thomas et aujourd'hui je vais interviewer Yanis qui va nous parler un peu de ses passions, de ce qu'il fait vibrer en profondeur. Alors Yanis est un apprenti compteur, marin de l'espace, c'est comme ça qu'il se décrit, et donc
Absolument.
ça en dit déjà beaucoup sur sa sensibilité, sa créativité et ce qu'il veut faire dans sa vie, de sa vie. Et donc la première question que je voudrais te poser, Yanis, c'est qu'est-ce que c'est que d'être un apprenti compteur et quand est-ce que tu ne seras plus apprenti et que tu seras un conteur et qu'est-ce que c'est d'être un conteur?
Alors, très bonne question. Je pense que un apprenti conteur, ça durera très très longtemps parce que la plupart des conteurs et conteuses disent qu'il faut compter pendant une bonne dizaine d'années pour enfin prétendre ou approcher le titre de conteur. Donc ça, je pense que je serai encore sur cette voie pendant un bout de temps. Après, là, je me définis comme apprenti conteur parce que c'est pas encore une activité professionnelle ou rémunérée. Je suis encore, entre guillemets, à l'école. Je suis des formations et des stages pour dans le futur, j'espère pouvoir vivre de cet art. Donc c'est en ça que je me définis comme apprenti compteur. Sinon, après, je suis à fond dans le compte, je plonge à fond et donc voilà, je vis compte.
D'accord. Et qu'est-ce
Pas vie
que
compte, mais je vis
c'est
compte.
que être un conteur professionnel alors?
Ah ben, c'est pouvoir faire des spectacles, se faire programmer dans différents endroits et pouvoir vivre à travers le racontage d'histoire. C'est sur un plan très pratico-pratique, c'est avoir l'intermittence du spectacle. Après, sur un plan plus artistique, c'est faire vibrer les gens et en retour, pouvoir en vivre.
Ok, super. Quand tu dis faire vibrer les gens, quel est le but du conte au final pour toi? Quel est ton but en dessous du but, je dirais? Tu sais, le but c'est pas d'être conteur. J'imagine qu'il y a des choses en dessous qui te passionnent, qui te font vibrer, le contact avec les gens. Tu disais faire vibrer les gens, leur mettre des étoiles dans les yeux, les faire rêver peut-être. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer en dessous de ce but-là?
Bah de plus en plus, je me rends compte que c'est le partage, c'est transmettre quelque chose qui, moi, me touche profondément et qui m'amène des grandes émotions ou de grandes questions, des grandes réflexions, et dire, bah, voilà ce que j'aime, je vais vous le partager comme un don, comme une idée que ça m'a touché, et je pense que ça pourrait vous parler. Donc, voici l'histoire que je vais vous présenter. Et il y a vraiment la dimension de relier à travers un art qui ne se veut pas comme une sorte de manifestation de la créativité artistique, quelque chose comme ça. Même si forcément, il y a un peu il y a ma personnalité artistique et ce que je suis qui ressort quand je lis une histoire. Mais ce que j'aime avec le conte, c'est que c'est un art peut-être plus humble que d'autres formes où vraiment on va venir pour admirer l'œuvre, pour admirer l'artiste, avec cette idée de starification qu'il y a beaucoup dans la musique ou dans le cinéma. Et on va limite aller voir plus un film parce qu'il y a tel acteur ou telle actrice qui joue. Et au final, on s'en fiche un peu du message. Alors que là, le conte que j'aime bien, c'est, bon, c'est la théorie, c'est qu'il faut n'être qu'un véhicule pour l'histoire. Et ce qui importe, c'est les mots, c'est les images. Et le conteur ou la conteuse est censé s'effacer. Bon, après, bien sûr qu'il y a toujours l'ego qui revient par derrière, même si on ne s'en rend pas compte, et qu'il y a toujours le côté qu'on est. Aujourd'hui, le conte est devenu un art du spectacle, alors qu'avant, dans les sociétés traditionnelles, avant-guerre, il y avait le côté où le conte, c'était encore plus cette idée de relier et de servir de ciment social, de faire passer le temps pendant les longues veillées d'hiver, où les gens, voilà, se racontaient des histoires. Aujourd'hui, ce statut-là a un peu disparu. C'est plus quelque chose qu'on vient voir comme on va au spectacle. Mais je
D'accord.
pense qu'il est quand même possible de ramener cette dimension du lien social plus que dans d'autres formes d'art, à mon avis.
Donc toi, ce serait ton but de faire revivre l'essence du métier de conteur qui s'est peut-être perdu dans l'art du spectacle et le show et...
Ouais, je. C'est vrai que dès le départ, dans mon approche de la pratique, j'ai cette envie de me dire, j'ai pas vraiment, bien sûr que j'ai envie de faire des spectacles, des choses comme ça, mais ce que je vise avant tout, c'est le côté lien et le côté comment recréer la convivialité avec cette forme d'art. Je pense que le conte, par sa nature, évite toute starification des personnes, mais elle y est quand même, donc peut-être, voilà, me dire que qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est de créer du lien. Mais voilà, ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse.
Ok. Ce que tu dis, ça me fait vraiment penser. Tu disais être un véhicule pour l'art qui se manifeste au final à travers toi, mais c'est pas toi la chose à vénérer ou à starifier, comme tu disais. Mais c'est l'art lui-même, c'est le lien social, c'est le moment, c'est la situation. Et ce que tu dis là, ça revient beaucoup dans chez beaucoup de gens. Par exemple, je pense que Einstein, Dali, des personnes très créatives, scientifiques ou artistes, qui ont fait des choses géniales, elles le disent elles-mêmes aussi, ces personnes-là, que quand on se sent comme véhicule pour quelque chose de plus grand que nous, en fait, on devient un espèce de canal clair, propre, dans lequel, par exemple, l'amour, le lien, comme tu disais, le lien social, c'est connecté avec l'amour, l'amour des autres. Et j'imagine que j'imagine très bien, toi, en tant que conteur, vraiment être ce véhicule d'amour, au final, et de joie, peut-être, et d'espoir, d'aller de village en village.
Super.
Et au final, par exemple, Einstein, Dali, bah, ils ont été starifiés dans un sens, peut-être pas comme maintenant avec des grandes stars pop et tout ça, mais est-ce que tu dirais que il y a peut-être une différence quand même entre Taylor Swift et Einstein?
Ouais.
À l'époque d'Einstein, je pense pas qu'il avait des groupies comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que je viens de dire là, des gens comme Einstein ou Dali, qui, je pense, ont vraiment vécu leur vie en tant que canaux de transmission, véhicule, tout en acceptant ou en recevant beaucoup de popularité et d'appréciation du monde entier. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bah, c'est intéressant, c'est l'idée de mêler les deux facettes un peu de la créativité, que oui, bien sûr, il y a quelque chose qui dépend de chaque personne, de son histoire et de sa propre imagination, mais ensuite redonner du pouvoir à toute la société et à l'interdépendance entre chaque personne qui constitue cette société. Et je pense que c'est ça quand tu parles de canaux, de se dire que bien sûr, je vais avoir ma propre vision artistique qui pourra plaire parce qu'elle est unique, mais en même temps, je me fais le véhicule et le réceptacle de l'esprit d'une époque où, et en ça, je dois autant aux autres personnes qui viennent et autant aux autres personnes desquelles je me suis nourri que je dois aussi à ma propre imagination. Et je pense que le conte a encore plus ce côté-là de canal, parce que c'est des histoires, pour la plupart, qui datent de la nuit des temps et qui se sont transmises comme ça de génération en génération par la tradition orale. On avait ça en France, on n'a plus ça en France, mais ça subsiste dans certains pays. Et il y a vraiment ce côté de, bah ouais, je lis des histoires qui n'ont pas forcément d'auteur ou d'autrice connue. Et je tiens le flambeau un peu comme les futurs porteurs de flambeau de cette chère compétition des Jeux Olympiques de Paris. Et voilà, on éclaire le monde avec nos grandes torches portées à bout de bras. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent courir plus rapidement ou qui peuvent prendre des chemins plus intéressants, mais ce qui est important, c'est aussi la torche. Donc c'est allier les deux. Et c'est intéressant, hier j'ai entendu une conférence qui parlait de la place de l'art dans la société avec la question de la décroissance, et qui pointait l'importance, ben voilà, de ce lien social, et selon les termes de la dame qui était, elle disait l'ambiance générale, et que finalement les artistes doivent autant mettre l'accent sur leur propre expression et émotion créative que sur la société. Et voilà, dire, on est tous ensemble dans cette chose-là et enlever cette barrière un peu fictive que le capitalisme, la starification créent, qu'il y a des artistes qui ont du talent et il y a les autres, la masse, qui... Alors que non, c'est juste... Il y a des
Ouais.
personnes qui ont eu de la chance, qui sont dans des milieux favorables. Et voilà, c'est essayer de rassembler tout ça.
Toute une diversité, de toute façon, il n'y a pas que des artistes, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui font de tout. Et puis, ce que tu me dis, ça me fait penser à... En gros, toi, tu es responsable de prendre soin et de développer ton corps humain et ta psychologie humaine dans le sens où tu développes des compétences, peut-être tu... T'apprends à jouer de la guitare, par exemple, et ça va te donner quelque chose qui peut permettre à cette transmission de l'art de se faire plus facilement à travers toi. Donc, c'est ça dont tu es responsable. C'est comme un peu aiguiser ses outils et en prendre soin, aller aiguiser sa scie avant d'aller couper des arbres. Bon, c'est pas un bon exemple d'aller couper des arbres dans la forêt, mais ça dépend pourquoi, en fait. Mais ouais, c'est. Et justement, là, je voulais rebondir sur ça pour te demander, toi, quel est ton parcours? Donc, moi, je le connais un petit peu, mais peut-être le présenter un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études? Et est-ce que cette passion-là, du conte, des mots, du partage, t'es venue depuis longtemps, depuis l'enfance? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours historique?
Très bien. Alors, la passion des mots, elle est là depuis très longtemps, mais c'était à travers la lecture. J'étais un énorme lecteur, véritable rat de bibliothèque, qui justement passait son temps dans sa chambre et que du coup, les mots se faisaient que sur le papier. J'avais pas du tout, avant, dans mon enfance, jusqu'à la fin du lycée, cette idée de partager et de transmettre par la voix orale, par les mots, même par les insulmants ou. Voilà, je gardais un peu pour moi tout ça. Très timide, avec des difficultés à prendre la parole en public. Et ensuite, j'ai fait immédiatement après le bac Sciences Po, où là, j'ai découvert une association où on faisait de l'éloquence qui m'a fait tremper le petit orteil dans le grand bain de la prise de parole en public. Et c'est là où j'ai commencé de fil en aiguille à tisser ce chemin des mots. Et finalement, ben voilà, prise de confiance dans la parole. Je continue à lire beaucoup. Et c'est ensuite que j'ai découvert la pratique de la lecture à voix haute, où là, j'ai compris que, ouais, mais vraiment, c'est tu prends un texte que tu aimes bien et tu vas le dire aux autres. Tu vas le lire aux autres dans ce cas-là. Donc, ça m'a encore plus aiguillé sur cette voie. Et ensuite, j'ai découvert pour un mémoire de fin d'études à Sciences Po sur la question de la culture et du réchauffement climatique. J'ai parlé d'un conteur. Paysan, conteur, qui reste vraiment dans son territoire, dans une optique, ben voilà, de vraiment relocaliser la culture, qui parle de son territoire, de ses spécificités, de ses légendes. Et c'est là, en découvrant ce conteur que j'ai pu voir en spectacle, que j'ai capté que ben, c'était ça ma voie, devenir conteur. Et toutes les choses se sont un peu, voilà, assemblées, comme si ça coulait plus de sources naturellement. Et maintenant, je découvre de plus en plus comment cette voie, où est-ce qu'elle va me mener, et vraiment que je suis juste, que je suis sur mon chemin. Et c'est ça qui est très satisfaisant de se dire, parce que pendant longtemps, je me disais, ouais, mais tu passes ton temps à lire avant, c'était un truc très solitaire, et je me demandais, mais il manque un truc, et même si j'adorais lire, je trouvais que c'était un peu un repli sur soi. Alors que là, il y a à la fois le fait que j'adore lire, j'adore les mots, j'adore la poésie et les images, mais avec l'idée de les partager à un public. Et c'est ça aujourd'hui qui m'illumine encore plus.
Ouais, super, c'est inspirant. Et je voulais te demander, dans mon expérience, et je sais dans l'expérience de beaucoup de personnes, quand on est enfant, on a un feu intérieur, on a des passions, on a des choses, et ensuite, on devient adolescent, jeune adulte, et il y a des choses qui font que on les étouffe un peu, ces passions. Est-ce que toi, tu as eu cette période-là où tu as perdu un peu le fil, où tu savais pas ce que tu voulais vraiment faire dans la vie. Et ensuite, tu l'as retrouvé justement quand tu m'as dit que tu t'as fait le club d'éloquence, ensuite que tu as vu le compteur, le paysan compteur. Est-ce que tu dirais, alors moi j'aime bien l'image du volcan, est-ce que tu dirais que ton magma et ton volcan s'est éteint à un moment, s'est vraiment calmé, et qu'ensuite il y a eu des épisodes et des moments dans ta vie qui ont fait ressurgir de la lave, et tu t'es reconnecté à cette passion intérieure à un moment?
Bah, je pense que pendant longtemps, le volcan, il était éteint, en tout cas dans l'idée qu'il projetait à l'extérieur, c'est-à-dire que ça bouillonnait vraiment à l'intérieur, mais c'est un truc que je gardais vraiment pour moi. De ce côté, j'adorais lire, j'adorais la musique, tout ça, mais c'était quelque chose de voilà, très solitaire. Et ensuite, le volcan a commencé à bouillonner quand je me suis dit, ouais, mais j'aimerais bien faire de l'art, quelque chose de plus sérieux pour moi, écrire, faire de la musique. Et à un moment, je m'étais mis en tête, voilà, vraiment que je voulais faire de la musique, mais à l'époque, c'était du rap, ou c'était de la musique électronique. Et bah là, c'était un peu le volcan que je forçais à aller dans un endroit où j'avais creusé une sorte d'issue pour que la lave s'écoule par là, sauf que c'était un mauvais endroit et du coup, ça forçait la lave à sortir alors que c'était pas là que vraiment elle allait le plus exploser. Et du coup, voilà, je me mettais une routine, des objectifs qui finalement me correspondaient pas vraiment, où je faisais des choses qui me donnaient pas du plaisir quand je les apprenais, mais j'étais en mode, ouais, mais il faut le faire. Parce que c'est ça qui est important, devenir un artiste ou je sais pas trop quoi. Et ensuite, c'est en ayant mis ça un peu de côté et en ayant découvert le théâtre et justement la lecture à voix haute, où là, j'ai compris comment moi, j'allais m'insérer sur ce chemin. Et je suis revenu à la musique, mais par un autre canal, avec quelque chose de plus acoustique, où aussi je raconte des histoires. Et donc maintenant, j'ai toujours ce côté de me mettre des objectifs, avancer sur le chemin, mais je suis beaucoup plus aligné parce que il y a plus de pression là, et parce que je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Et je me dis pas, ah, il faut que je fasse mes gammes parce qu'il faut devenir bon. C'est, ah, vas-y, je vais écrire un texte ou faire une chanson parce que j'ai envie et que ça me rend heureux. Donc, en apparence, ça peut sembler pareil, une idée de productivité et d'objectif, mais à l'intérieur, le feu, il est vraiment bien canalisé.
Et toi, comment tu te sens quand tu es dans cet état d'esprit-là où j'ai l'impression que c'est sans effort, que tu crées avec pour le plaisir et seulement pour le plaisir? Est-ce que tu vois une différence de résultat aussi au niveau qualité et au niveau... Est-ce que tu es plus content du résultat justement quand tu es dans cet état-là?
Ouais, je sais pas, parce qu'il y a aussi des moments où je fais entre guillemets sur commande, où ça va pas être ah ben là j'ai envie d'exprimer cette chose-là, donc je vais écrire une chanson, je vais faire un poème. Et des fois où vraiment je fais parce que soit il y a une commande d'une personne ou je veux faire un poème spécialement pour une occasion. Mais là ça me parle aussi vraiment. Et limite quand je fais des choses pour une occasion, c'est une autre façon. Il y a vraiment l'idée du lien social où, avec mes mots, je vais rassembler, créer. Et c'est un autre type d'énergie. Et c'est aussi très, très agréable. Mais je me rends compte que j'ai aussi besoin voilà, d'avoir des objectifs un peu extérieurs pour arriver à naviguer. Parce que sinon, l'énergie, elle va dans tous les sens. Et elle tire un peu des flèches au hasard ou des balles en l'air, mais il y en a très peu qui atteignent leur objectif. Ou des fois, voilà, je commence les chansons et je les finis jamais. Alors que c'est bien d'arriver à canaliser tout ça, mais ça après, c'est une autre paire de manches.
En tout cas, j'aime beaucoup l'image que tu as donnée de quand tu creusais un nouveau conduit, qui n'était pas forcément le conduit du coup principal et naturel de ton volcan, avec le rap et la musique électronique. Et ça me faisait vraiment penser au fait que, en fait, pour vraiment apprécier la vie, puis avoir du succès, entre guillemets, ça veut pas dire succès financier ou professionnel ou quoi que ce soit, ça veut dire, pour moi, le succès, c'est... apprécier toutes ces journées, être inspiré, aimer, être aimé et puis vivre. Et quand on a ça, que l'argent vienne, c'est un outil, c'est quelque chose, qui nous fait vivre dans un sens où on peut échanger une énergie, de l'argent pour d'autres choses. Ou la popularité, être connu, ça c'est aussi un outil qui peut aussi servir à son art. d'être plus impactant et de se déployer, de s'exprimer mieux. Mais c'est pas obligé. Et en fait, ce que tu as décrit, ça m'a fait vraiment penser que le but, c'est de relâcher toute la pression. En tout cas, d'arrêter d'essayer et de juste s'autoriser la nature, sa nature, sa propre nature à nous guider comme un espèce de, comme notre esprit. Imaginons, on a un esprit à l'intérieur de nous et notre squelette, notre corps, il est juste animé par cet esprit. Et le but, c'est d'essayer d'arrêter de résister le mouvement de cet esprit-là, mais de l'autoriser à se dire, à bouger où il veut, quoi. Et ça, pour moi, c'est revenir dans le conduit principal de ton volcan. Et là, il n'y a plus d'efforts à faire, en fait, pour créer et pour vraiment avoir du succès, être heureux, faire ce qu'on aime faire, créer, aimer les gens, voir ses proches et faire de sa vie quelque chose, qui est vraiment aligné, en fait.
Ouais,
Donc,
c'est
ouais.
vraiment à écouter l'intuition en fait, qui sommeille au fond, mais que souvent on enterre sous plein de couches parce qu'on ne sait pas comment l'écouter, ou on pense qu'il ne faut pas l'écouter parce qu'il y a plein d'objectifs à atteindre, il y a des devoirs à faire. La société nous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, il faut aller vite, il faut aller là. Et l'intuition, peut-être qu'en fait, l'intuition, elle veut aussi aller là-bas, mais juste un peu par un autre chemin. Mais nous, comme on n'y fait pas confiance, on se dit, mais non, elle n'a pas raison. Et aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus à écouter l'intuition, en tout cas dans cette approche de l'art. Et finalement, j'arrive à faire des choses géniales sans forcer, comme tu dis. J'ai moins à me dire, je sais pas, à me cravacher le bâton et la carotte, quoi. C'est vraiment plus, ouais, ça avance tout seul. Et c'est extrêmement dur aussi de lâcher prise sur ça, de se dire, ouais, ben. Je relâche la pression et finalement ça va aller quelque part parce que aussi on grandit dans un monde où il faut toujours avoir des objectifs, il faut toujours no pain no gain quoi et avancer comme ça et du coup se dire bah non ça peut le faire
Ouais.
en relâchant c'est difficile
C'est tout
mais
un travail de refuser l'histoire, en tout cas ce qu'on nous dit, l'histoire qu'on nous donne de la vie, que la société nous donne, que comme tu dis, faut travailler dur, faut cravacher, faut monter les échelons en entreprise. Et
Et c'est possible de le faire quand même. Je suis pas en train de dire qu'il faut. C'est possible d'avoir des rêves, des objectifs, des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui serait comme plus facile et qui nous mènera à des objectifs vraiment pour vraiment les nôtres. Ouais, c'est vraiment cette question de sur sa carte de randonnée, se faire son propre chemin. Qui finalement nous mènera peut-être au sommet les plus hauts, et il empruntera des chemins différents, du chemin tout tracé. Peut-être qu'on passera dans la broussaille, peut-être qu'il y aura des moments où on se foulera la cheville, et ce sera la galère, on n'aura plus d'eau, mais au final, on arrivera quand même au même point, et on aura compris plein de choses sur le chemin. Mais c'est se dire, se faire assez confiance, je pense, ouais, c'est vraiment cette histoire de dans son jugement et. Se dire que oui, bah, ça peut le faire. Et je pense que tout ça vient aussi avec en faisant des rencontres, en rencontrant des gens qui justement font confiance à leur intuition et se dire bah, c'est possible de le faire. Mais tout ça, c'est très complexe, n'est-ce pas?
Ouais. Je pense que c'est vraiment le chemin à prendre, justement, figurativement et comment on dit, en réalité aussi, c'est de tracer son propre chemin dans la forêt, dans la broussaille, comme tu dis. Parce que si on suit un chemin, le chemin des autres ou le chemin que la société nous donne, eh ben on accomplit des choses aussi, on arrive à un endroit comme tu dis, mais c'est peut-être moins. Après, c'est un choix, et je pense que des gens comme toi et moi, ils ont cette sensibilité, on a cette sensibilité là de suivre quelque chose qui résonne vraiment au fond de nous, et en fait on n'a pas trop le choix. J'ai l'impression que c'est pareil pour toi aussi, on se donne pas, enfin c'est impensable que d'aller suivre le chemin que tout le monde nous dit de suivre.
Ouais, c'est vrai.
Et j'aimerais bien parler de quelque chose dont tu m'avais déjà parlé, l'art brut. C'est quelque chose qui résonne beaucoup avec ça aussi. Il n'y a pas vraiment de but. C'est pas quelque chose qui est intégré, qui est inséré dans une société ou un système économique. Et c'est, je trouve que c'est un super symbole de ce qu'on disait aussi avant, d'être un outil pour l'art, pour la création, sans prétention, et sans règles, sans... En fait, ce que tu m'avais présenté, l'espèce de grand château de pierre construit en art brut, je voudrais que t'en parles, parce que ça m'avait vraiment touché sur... La personne ne suit aucune règle et du coup, elle crée quelque chose qui est impossible à créer pour quelqu'un qui est dans un cadre, qui est dans... Parce que la personne fait juste ce qu'elle veut. Tu peux décrire un peu ça? Qu'est-ce que c'est cet art brut déjà? Et puis l'œuvre d'art dont j'ai parlé là.
L'art brut, c'est un mouvement qui n'a pas trop de frontières, mais qui pourrait se définir par le fait que c'est de l'art fait par des personnes qui n'ont pas de formation artistique à la base, qui sont pas sorties d'école, soit d'art appliqué, soit d'art vraiment de la peinture ou du cinéma, par exemple, et qui vont créer des productions artistiques. Souvent, on va avoir tendance à les réduire un peu comme ça, un peu naïvement, sans savoir ce qu'elles font. C'est pas vrai, il y a des personnes qui savaient très bien qui œuvraient, qui travaillaient pour progresser dans leur art, mais qui souvent font ça d'une autre intention que celle de soit révolutionner les codes de l'art ou de l'idée d'en vivre. Souvent, la plupart du temps, c'était des personnes qui avaient des métiers de base, qui soit ont fait ça à la retraite, soit qui faisaient ça à côté de leur temps de travail, et qui souvent, de leur vivant, n'étaient pas reconnus en tant qu'artistes, soit parce que ils cachaient leurs œuvres, parce qu'il y a beaucoup d'artistes d'art brut qui faisaient ça dans une visée soit auto-guérissante, soit vraiment exprimer des traumas, des choses qu'ils avaient au fond d'eux. Pas forcément des traumas aussi, il y avait des œuvres plus positives et solaires. Mais c'était des artistes voilà, qui soit les cachaient, qui ne montraient pas au grand jour, ou soit où on disait, mais c'est pas de l'art ce que tu fais, c'est ridicule. Et là, ce dont tu parles, c'est le palais idéal du facteur cheval. Le facteur cheval, c'était, comme son nom l'indique, un facteur qui, un jour, a rencontré une pierre sur son chemin qui, automatiquement, lui a fait, comme par une sorte de synchronicité, lui a fait un rappel d'un rêve qu'il avait eu il y a quelque temps, juste avant, où il construisait un énorme palais totalement grandiose qui répondait à aucune règle architecturale. Et il a dit, mais c'est cette pierre, c'est vas-y, je vais rendre réel ce rêve. Et c'est à partir de cette pierre qu'il a commencé. Et sur chacune de ses tournées, qui faisait plusieurs dizaines de kilomètres, à pied, tous les jours, il a ramassé des pierres. Et comme ça, pendant 37 ans en tout, il a construit son gigantesque palais en se basant sur des images de cartes postales qu'il voyait ou des monuments d'autres pays. Et donc, c'est un bâtiment voilà, qui répond vraiment à aucune règle préétablie et qui tient la route. Et c'est grandiose. Et on se balade dans l'univers de cet homme qui faisait ça parce que, comme tu dis, voilà, il y avait cet appel en lui. Il n'aurait pas pu faire autrement. Il n'a pas fait ça pour qu'on vienne l'aduler. Il n'a pas fait ça pour qu'on vienne lui donner une fortune. Il a fait ça parce qu'il avait envie de le faire. Et c'est souvent ça qui se retrouve dans le travail de l'art brut. Ce côté, on fait de l'art parce qu'on n'a rien d'autre. Parce que c'est comme ça, c'est naturel.
Ok,
C'est
super.
rare.
Merci pour toute cette présentation. Depuis que tu m'en avais parlé, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intrigue et qui est vraiment en marge et du coup intrigant, intéressant et qui ramène de quelque chose comme de l'ombre dans la société qui manquait un peu de quelque chose. Et donc, je voudrais continuer un peu, peut-être terminer cette interview en te demandant aujourd'hui et dans ton futur, quelles sont les étapes maintenant, quels sont tes projets actuels peut-être et futurs qui font partie de cette passion. En rappelant aussi, quand je t'ai décrit, quand je t'ai présenté en début d'épisode, j'ai dit marin de l'espace. C'est toi qui m'avais dit ça. Et je voudrais aussi que tu expliques un peu ça. Je pense que ça se comprend un peu avec la poésie, l'art, des mots. J'aimerais bien que tu en parles un peu plus.
Ok. Alors, d'abord, je peux parler de marin de l'espace. Ça fait référence à un univers que je me suis créé mentalement juste parce que ça me fait marrer aussi pour m'aider à gérer tout ce qui est émotion, tout ce qui est peur. Et ma métaphore, c'est qu'on a chacun et chacune au fond de nous un grand bateau. Un navire qui a des formes différentes en fonction de chaque personne, et que sur ce navire, il y a un équipage qui est fait de nos émotions, de nos pensées, de nos peurs, de notre anxiété, et que nous, ben, on est un peu le commandant de tout cet équipage qui souvent fait des mutineries ou qui souvent veut aller à droite alors que nous, on veut aller à gauche, et qu'il faut faire avec ça pour illustrer le proverbe qu'on est tous et toutes sur le même bateau. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup à prendre du recul avec tout ce que je vis et à plus l'accepter. Donc ça, c'est le marin. Et l'espace, c'est... déjà, je suis fasciné par le cosmos et tout cet univers gigantesque. Mais là, l'espace, c'est plus dans le sens l'espace géographique du monde, avec cette idée de partir à l'aventure, découvrir l'espace aussi qu'il y a entre chacun et chacune de nous. Qu'on peut essayer de combler tant qu'on veut en parlant, il y aura toujours forcément un espace. On ne pourra jamais vivre vraiment ce que les autres gens vivent, mais en tout cas, on peut essayer de l'approcher. Donc, c'est toujours dans cette idée de relier à l'espace, relier aux autres, relier au dehors. Je suis juste fasciné en fait par le fait qu'on puisse avancer, se déplacer. Pour moi, c'est comme un miracle le fait juste de marcher, que notre corps, il est là. Il y a un tas de molécules qui est là et juste on décide par la pensée d'aller à un autre endroit et on y arrive. Bon, si c'est pas de la téléportation, ça je sais pas ce que c'est. Voilà pour le marin de l'espace. Et sinon, pour mes futurs projets dans le compte, l'idée c'est de progresser dans ma pratique avec découvrir beaucoup d'histoires. Je fais ça en ce moment, de lire plein d'histoires, des recueils, m'imprégner de la matière conte, comment les histoires se construisent, qu'est-ce que c'est les éléments récurrents, qu'est-ce que c'est les différents types de contes, parce qu'il y a plein de registres dans le conte. Comme il y a des styles de musique, reggae, rock, metal, classique, il y a des styles dans le conte, conte merveilleux, conte de facétie, menterie. Tout ça, il faut l'intégrer un peu. Et ensuite, l'idée, c'est de créer un premier spectacle qu'ensuite je pourrais promener à droite, à gauche, essayer, je sais pas, de programmer dans des endroits. Mais ça, c'est un futur plus ou moins lointain. Et j'aimerais aussi, toujours dans cette idée de reliance et d'exploration de l'espace, faire une sorte de tournée à pied ou en stop ou en vélo, je sais pas encore, de France et demander le gîte et le couvert en échange d'un racontage d'histoire et de quelques chansons. Et ça, c'est quelque chose qui me plairait vraiment parce que j'adore l'être humain, j'adore les histoires de vie. Et je trouverais ça génial de se servir comme prétexte, de se servir du conte comme prétexte pour ensuite créer des discussions et des choses vraiment un peu intimes, personnelles, de personne à personne, par rapport à un spectacle où même si les gens peuvent venir nous voir à la fin, il y a toujours des gens, on ne sait pas comment ils reçoivent les histoires. Et aussi, ce projet, il m'animerait bien parce que j'aimerais retrouver une sorte de tradition orale, même si je sais que c'est une illusion que en France, en Occident, l'écrit est devenu maître, mais essayer de réapprendre, découvrir des histoires en les entendant d'une façon orale. Et je pense qu'il y a plein de gens en France, surtout du côté des personnes âgées, qui connaissent des histoires. Et l'idée, ce serait d'aller les voir et de dire, est-ce que vous avez une histoire à me raconter? Voilà.
Super. Peut-être que si vous écoutez cet épisode, Yanis passera pas loin de chez vous. J'espère que vous lui offrirez le gîte et le couvert.
J'adore le beurre de cacahuète, si jamais vous
Ouais.
voulez m'en appeler.
Faudra prévoir le bocal. Super. Est-ce que comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que on n'a pas trop parlé des doutes ou des challenges ou des peurs aujourd'hui? C'était assez positif. On va pas y aller trop en profondeur là. On va arrêter l'interview bientôt. Mais est-ce que quel est ton équilibre entre l'excitation et être certain de ce que tu veux faire et de l'autre côté les peurs et les doutes qui peuvent surgir?
À la fois, j'ai beaucoup moins de peur et de doute qu'avant sur l'idée de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, cette question, hein, comme une lame de guillotine au-dessus de la tête. Je sens que j'ai vraiment mon feu intérieur qui, du coup, me donne des envies d'avancer et qui, peu importe ce que je ferai à côté, même si j'ai envie de faire des métiers qui aient du sens juste comme ça, je me dis, bah, j'ai toujours ce rêve-là et j'y avance tant bien que mal, jour après jour. Donc ça, pour le coup, ça a enlevé pas mal de doutes. Et aussi le fait qu'en progressant, ben, je recueille aussi beaucoup de retours très positifs. Donc ça me nourrit. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une scène ouverte où j'ai raconté une histoire. Et à la fin, il y a une dame qui est venue me donner un commentaire qui disait quelques éléments qu'elle a beaucoup aimés. Et à la fin, elle a dit que j'étais juste. Ça, j'étais vraiment très juste. Et ça, je ne l'avais jamais eu comme retour, et j'étais, c'est génial, c'est merci. C'est à la fois, je suis juste quand je raconte l'histoire et je suis juste dans mon chemin. Donc, ça, c'était du pain béni. Et sinon, après les doutes, oui, bien sûr, il y en a, mais ils seraient plus sur l'état actuel et général du monde, de est-ce qu'il y aura de la place dans 10 ans de compte pour en vivre? Est-ce que tout sera pas dans un bordel cataclysmique? Mais ça, on ne peut pas y répondre malheureusement. Donc ça, c'est plus des doutes, mais qui, je pense, seront toujours là. Donc, juste les accepter, et voilà. Mais déjà, je suis revenu pas mal de doutes, parce qu'il y avait un an et demi, j'étais dans cette idée de, mais à quoi ça sert l'art dans un monde où il va y avoir de moins en moins de ressources, ou avec la montée des eaux, la montée de la température et tout. Et maintenant, je me dis, oui, c'est vital de se nourrir, de se loger et de se réchauffer, mais c'est vital de créer du lien entre les êtres humains, d'échanger. Et c'est tout aussi vital, le conte et l'art d'une façon générale, que la nourriture. Si on nourrit nos corps avec des légumes, avec du pain, avec des céréales, on nourrit nos âmes avec des histoires et des chansons et des films. Donc, les deux sont importants.
Donc, ce paysan conteur a trouvé le bon filon.
Ah oui, lui, c'est royal.
Et moi, je crois vraiment que l'économie du futur, ça va tout changer, l'argent va tout changer et des gens qui font des choses comme toi, tu fais, faire du lien, créer, il y aura beaucoup plus de valeur mise, je pense, dans cet aspect-là, communauté, amour, lien, développement personnel et en même temps, bah, comme tu dis, le pain, la nourriture, ça sera toujours important, c'est sûr, on sera pas des robots.
J'espère bien.
Ouais. Peut-être, ça c'est pas sûr encore, mais.
Et également, je suis assez content d'avoir choisi ce domaine artistique, parce que je pense que l'intelligence artificielle, bon, avant qu'on voit des IA compter, je pense qu'on aura des poules auront des dents. Alors que par exemple, le cinéma ou la peinture, plus craignos, quoi.
C'est vrai. Alors, je pense on peut clôturer pour cette interview. Merci à toi, Yanis, d'avoir accepté mon invitation.
Merci à chacun.
Voilà,
Merci à
merci.
Hélène également.
Hélène aussi, ouais, qui n'est pas là aujourd'hui, car on a décidé de faire des interviews séparément. Ce sera plus simple pour poser des questions plutôt que d'être à deux. Et merci aux auditeurs. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez plus de questions sur le métier de conteur, sur le parcours qu'il faut faire, sur peut-être comment aller voir des conteurs en France ou ailleurs, si vous venez d'autres pays francophones peut-être, eh ben n'hésitez pas à écrire des commentaires et puis on rentrera en contact avec Yanis par un moyen ou un autre, email ou quoi que ce soit, pour en savoir plus. En tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé aujourd'hui et je pense que les prochaines interviews seront aussi axées sur ce feu intérieur dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et dont tu as vraiment exprimé l'essence grâce à ton parcours et à ce que tu as pu dire de ta passion, de ton métier. Donc merci pour ça, Yanis.
Mais de rien. Merci pour cette belle interview. Au revoir.